Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Phèdre est un dialogue socratique de Platon, rédigé durant sa période de maturité et centré sur un échange entre Socrate et Phèdre. Cette édition française de Flammarion, associée au travail de Luc Brisson, donne accès à un texte où la beauté littéraire ne se sépare jamais de la recherche philosophique. Le point de départ est un discours sur amour, mais la conversation élargit rapidement son champ nature de âme, formation du jugement, art de persuader. Valeur de la parole et limite de l'écriture. Platon ne propose pas un traité ordonné au sens moderne. Il fait progresser les questions par des discours concurrents, des réfutations, des mythes et des images, notamment celle de attelage ailé. Le dialogue interroge ainsi les conditions d'une parole juste parlée efficacement exige de connaître la vérité et la disposition de âme de auditeur. Phèdre examine enfin pourquoi le désir correctement orienté peut conduire vers la philosophie plutôt que vers la flatterie ou la possession. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, amour comme élan de âme vers le beau et le vrai, la première grande question de Phèdre porte sur Eros. Un discours attribué à Lysias défend la préférence pour celui qui ne aime pas, au motif que la passion rendrait instable, jaloux et peu fiable. Socrate répond initialement dans ce cadre, puis se rétracte réduire amour à une maladie prive le discours de sa vérité essentielle. Il distingue plusieurs formes de délire divin, dont amour est une forme privilégiée. Cette folie ne signifie pas abandon du discernement. Elle désigne un mouvement qui dépasse le calcul ordinaire et qui peut réorienter âme vers ce qui mérite réellement admiration. La rencontre de la beauté sensible réveille le souvenir des réalités intelligibles contemplées avant incarnation. Ainsi, attirance corporelle possède une portée philosophique, sans être automatiquement philosophique. Elle peut rester recherche de plaisir ou devenir occasion de maîtrise de soi, de respect et de remonter vers le beau en soi. Platon relie donc éthique et connaissance et met justement requiert une transformation de celui qui aime, non la simple satisfaction de son désir. Cette analyse évite deux simplifications opposées. Elle ne sacralise pas toute passion, mais elle ne la condamne pas non plus comme pure irrationalité. Eros devient une épreuve révélatrice d'orientation de âme et de sa capacité à préférer le vrai au profit immédiat. Deuxièmement, le mythe de attelage ailé et le conflit intérieur, le célèbre mythe de attelage ailé, offre une représentation dynamique de âme. Chaque âme est comparée à un cocher qui conduit deux chevaux de nature inégale. L'une se porte vers l'honneur, la retenue et la docilité à la raison. Autre se laisse entraîner vers les appétits et la démesure. Cette image ne fournit pas une psychologie au sens scientifique. Mais elle rend intelligible une expérience morale familière, un même individu peut reconnaître ce qui est bon tout en étant tiré vers ce qui le contrarie. La tâche du cocher consiste moins à supprimer les forces désirantes que à les ordonner. Dans le récit, les âmes suivent les dieux vers la contemplation des réalités véritables. Leur aptitude à conserver cette vision détermine leur chute, leur incarnation et leur possibilité de retrouver un chemin ascendant. Platon associe ainsi immortalité, connaissance et conduite de vie. La philosophie est présentée comme exercice de réminiscence, elle aide âme à retrouver une orientation vers les formes intelligibles, notamment le beau, le juste et le vrai. Le mythe explique aussi pourquoi amour peut être éducatif. Face à un être beau, le conflit entre les chevaux devient visible. La relation exige alors discipline, pudeur et attention au progrès moral réciproque. La grandeur du passage tient à cette articulation entre cosmologie, éthique et expérience concrète du désir. Troisièmement, la vraie rhétorique exige une connaissance de la vérité et des âmes. Dans la seconde partie, Phèdre devient une enquête sur la rhétorique. Platon vise les pratiques qui enseignent comment emporter adhésion par des procédés formels sans exiger une connaissance sérieuse du sujet traité. Socrate ne nie pas que le discours exerce une puissance réelle. Il le compare même à une conduite des âmes, les mots peuvent calmer, exciter, tromper ou orienter. Cette puissance rend la rhétorique moralement exigeante. Un orateur qui ignore la vérité peut persuader une foule, mais son succès demeure comparable à celui de quelqu'un qui mènerait des personnes sans savoir où il va. La rhétorique authentique suppose donc deux savoirs complémentaires. Elle doit connaître la chose dont elle parle par une recherche dialectique capable de saisir les articulations du réel. Elle doit aussi connaître les différents types de caractères, afin de comprendre quel genre de discours convient à quelle âme et dans quelles circonstances. Cette exigence dépasse une opposition simple entre éloquence et philosophie. Platon ne demande pas aux philosophes de renoncer à parler avec art. Il demande que l'art du langage soit subordonné à la vérité et à la responsabilité envers auditeur. Le dialogue conserve ainsi une portée actuelle. Toute communication persuasive pose la question de ses fins, de ses preuves et de ses effets sur ceux qui la reçoivent. Quatrièmement, dialectique rassembler les idées, puis les diviser selon leurs articulations, pour distinguer la parole philosophique de la simple habileté verbale. Platon met au premier plan la dialectique. Sa méthode comporte deux gestes liés. Le premier rassemble des éléments dispersés sous une idée commune afin de voir clairement de quoi il est question. Le second divise un genre selon ses articulations propres, sans le découper arbitrairement. Les discours sur amour fournissent un exemple implicite, il faut discerner les formes de désir. Les états de âme et les finalités de la relation au lieu de traiter amour comme une réalité uniforme. Cette méthode est aussi une discipline de langage. Un discours bien composé ne juxtapose pas des arguments séduisants. Il possède une unité comparable à celle d'un organisme, avec une organisation adaptée à son objet. La dialectique demande donc patience, définition provisoire, distinction et retour critique sur les termes employés. Elle corrige le risque majeur de la rhétorique, produire de l'apparence de savoir par des formules efficaces. Chez Platon, savoir parler et savoir penser ne sont pas séparables, car les confusions de mots entretiennent des confusions dans âme. Le lecteur découvre ici une conception exigeante de la discussion. Chercher la vérité ne consiste pas seulement à accumuler des informations ou à gagner un débat. Il faut apprendre à reconnaître les différences pertinentes, à ordonner les raisons et à accepter que la forme même d'un discours manifeste ou trahisse la qualité de sa pensée. En dernier lieu, écriture, mémoire et supériorité du dialogue vivant, la critique de l'écriture constitue une des dimensions les plus commentées de Phèdre. Par le récit égyptien de Zeut et Thammuz, Platon examine l'invention des signes écrits. Écriture semble offrir un remède à oubli, mais le roi Thammuz objecte qu'elle risque de produire une confiance externe dans les traces plutôt qu'une mémoire vivante. Le problème ne consiste pas à rejeter tous les livres, puisque Platon écrit lui-même des dialogues. Il concerne le statut limité d'un texte. Un écrit reste fixe, il ne peut ni répondre à une question, ni préciser son sens devant un lecteur qui le comprend mal, ni adapter son enseignement à une âme particulière. Il peut circuler largement, mais aussi tomber entre des mains incapables de le juger. Le bon discours, selon Socrate, est celui qui se grave dans l'âme d'un interlocuteur préparé par une conversation attentive et féconde. Cette thèse rejoint la conception de la rhétorique et de la dialectique, enseigner demande de connaître celui à qui on parle, de tester sa compréhension et de modifier le cheminement si nécessaire. Phèdre ne dévalue donc pas la transmission écrite, il la place après le travail philosophique vivant. Le texte peut rappeler, stimuler et servir de jeu sérieux, mais il ne remplace pas examen partagé. Cette réserve éclaire la forme dialoguée de œuvre, qui oblige le lecteur à devenir lui aussi interlocuteur actif. En conclusion, Phèdre convient aux lecteurs de philosophie antique, aux étudiants qui abordent Platon, ainsi qu'à toute personne intéressée par les rapports entre désir, connaissance et langage. Il peut aussi nourrir une réflexion précise chez les lecteurs préoccupés par éloquence publique, pédagogie, communication ou place des textes dans la formation intellectuelle. La lecture demande de l'attention, car le dialogue passe du discours amoureux au mythe de âme, puis à analyse technique de la rhétorique et de l'écriture. Cette diversité ne relève pas de la dispersion Platon, montre que la question de bien parler dépend de la connaissance de âme et de son orientation vers le vrai. Le bénéfice intellectuel majeur est donc une méthode de lecture et de discussion. Le lecteur apprend à examiner les prémices d'un discours séduisant, à distinguer persuasion et savoir, et à comprendre que les formes de l'expression engagent une responsabilité éthique. Par rapport à des traités systématiques sur amour ou la communication, Phèdre se distingue par son union rare de rigueur conceptuelle, de scènes dialoguées et de puissance mythique. Il ne délivre pas une doctrine sous forme de manuel. Il met en acte la philosophie comme échange, rectification et conversion du regard. Cette édition française est particulièrement utile pour accéder à un texte majeur où les problèmes de oralité, de mémoire et de persuasion conservent une résonance durable, sans que leur complexité historique soit effacée. Si vous souhaitez soutenir Platon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.